Ouvrons le Saint-Livre, mes frères et sœurs, avec beaucoup de joie. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, les apôtres viennent de vivre une expérience merveilleuse. Ils viennent d'assister à un des plus grands miracles qui se soit passé. C'est un grand signe en plus, c'est plus qu'un miracle, c'est un signe. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 6, il y a du verset 32 au verset 44, la multiplication des pains. Quelle expérience! Quelle expérience en plus! Ils ont été bénéfices de la bénédiction, puisqu'il est dit au verset 43 qu'on emporta 12 paniers, comme par hasard, 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ils étaient combien d'apôtres? Comme quoi ils avaient un panier chacun, vous voyez. Ils avaient travaillé, ils avaient distribué, parce que Dieu le leur avait demandé. Mais la récompense était là. Verset 45. Aussitôt après. Vous savez, il y a des expériences qui sont suivies d'autres expériences. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Quelle drôle de conclusion. Un autre texte, s'il vous plaît, dans les Romains. Romains chapitre 5, vous pouvez garder la page. Dans Romains au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Romains chapitre 5, verset 1 à 9. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et dont nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Amen. Je le relis parce que je pense que... Nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour avec nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Maintenant, lisez bien le verset que nous allons lire. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Vous avez bien lu, mes frères et sœurs, à partir du moment où un homme, une femme, ou un croyant est passé par la nouvelle naissance, par la croix, il est sauvé de la colère. Vous pouvez dire, là, vous pouvez dire amen. Si vous n'avez pas pu dire amen à les afflictions, tout ça, vous pouvez dire amen à cette immense faveur que nous sommes sauvés de la colère. Le problème des chrétiens, c'est que les temps devenant de plus en plus difficiles, ça ne veut pas dire impossible, les temps devenant compliqués, les gens se laissant emporter à tout vent de doctrine, les gens ne veillant pas suffisamment, les chrétiens étant de plus en plus légers avec la parole de Dieu, ils se mettent en danger. Et ils ne comprennent pas les paroles de Dieu. Comme dans le texte qu'on a lu avant, après cette merveilleuse expérience, le Seigneur Jésus les abandonne tant soit peu, les abandonne physiquement, et il leur fait traverser cette tempête. Pourquoi ? Eh bien parce que nous aussi, nous allons de plus en plus voir des tempêtes. Alors j'aimerais quand même lire un texte avec vous. C'est dans l'Exode. Dans l'Exode, le Seigneur, il sait toujours ce qu'il fait, le Seigneur. Vous savez, Dieu règne au siècle des siècles. Dieu règne sur toutes les nations. Dieu règne partout, sur les pays protestants, sur les pays islamistes. Ça nous dépasse tout ça, mais moi je vous dis que Dieu règne. Le problème, c'est que des croyants sont écrasés par les tempêtes. Vous avez vu, lorsqu'ils ont fait cette expérience, ils étaient tous bouleversés. Ils avaient chacun une corbeille de pain. Ça représentait quand même la bénédiction. De suite après, le Seigneur provoque une tempête. C'est lui qui la provoque. Moi, j'ai lu des commentaires que c'était le diable qui avait provoqué la tempête. Non, c'est le Seigneur qui a provoqué cette tempête. Pourquoi ? Parce que le Seigneur voulait leur apprendre quelque chose. Il voulait leur apprendre ce qu'on va voir dans cette matinée. Mais le problème, on va le lire. Dans le livre de l'Exode, vous savez ce qui s'est passé, ça faisait des siècles qu'ils priaient pour être délivrés de l'Égypte. Vous connaissez l'histoire, vous la connaissez? Vous avez tous lu le livre de l'Exode? Bon, si vous ne l'avez pas lu, faites-le, c'est un livre extraordinaire qui va vous montrer comment Dieu contrôle tout, tout dans les cieux et sur la terre. Tout. Le Seigneur permet cette affaire, c'est extraordinaire, donc Dieu va former Moïse. Et Moïse, combien de temps dans le désert? Bien sûr, c'est facile de le lire, ça va même très vite, puisqu'en deux versets, on passe de 40 à 80 ans. Ça va très vite, mais il l'a vécu. Et j'aimerais donner un mot pour tous ceux qui veulent servir Dieu. Dieu prendra le temps qu'il faut pour vous former. Même si ça presse, Dieu cherche des hommes et des femmes en qui il peut compter, ou sur qui il peut compter. Mais je voudrais franchement, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Et ça s'adresse à tous ceux qui subissent la vie plutôt que de la dominer, qui subissent l'avenir, le présent, plutôt que de dominer ces choses. Parce que quand même, la Bible dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie, pas la vie là-haut, ça sera facile. Ici-bas, nous pouvons régner. Alléluia, nous pouvons régner. Regardez ce qui se passe dans le livre de l'Exode au chapitre 6. Le Seigneur commence à intervenir. C'est extraordinaire. Ils ont prié pendant 400 ans. Ça a traîné un peu, 430. Pourquoi ? Parce que peut-être que Moïse n'était pas tout à fait prêt. Il y a des délais parfois qu'on ne comprend pas. Mais regardez, Dieu envoie Moïse. Moïse va vers les anciens. Pharaon réagit, pas très bien bien sûr, parce que Dieu veut montrer sa puissance. Alors regardez, on va lire. C'est important, mes frères et sœurs, ce qu'on va lire là. Exode chapitre 6, verset 5. Il vous faut noter ces textes, parce qu'ils peuvent vous aider à prendre une victoire. Regardez bien, donc Dieu rappelle par Moïse l'affaire. « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. » Ça n'a pas changé pour nous. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous serverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Regardez-moi un instant. Regardez-moi tous. Vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de lire? Dieu rappelle par Moïse qui arrive, c'est son moment. Il arrive, il leur dit, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Regardez la réaction. Lisons-la. Verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. D'accord ? Mais, lisez bien ce verset. L'angoisse et la rude servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous avez vu ? Dieu leur parle. Ça ne peut pas être plus beau, ça ne peut pas être plus clair après des siècles d'attente. Et quand Dieu envoie son serviteur pour leur parler, ils sont tellement écrasés, il ne faut pas non plus les juger. Mais qu'est-ce qui est écrit ? L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter. Et je le sais, parce que je vois bien que certains ne réagissent pas lorsque Dieu leur parle, parce que certains chrétiens, même au contraire, rétrogradent. C'est bien la preuve que des choses les empêchent d'écouter. Ils entendent avec les oreilles physiques, ça j'en conviens, mais ils n'entendent pas spirituellement. Et le problème, c'est qu'une fois que Dieu leur a parlé, ils ne sont pas au bénéfice de cette faveur, et ils vont le payer cher, parce qu'ils vont passer à côté de cette faveur, et d'observer tout ce que Dieu va faire pour les délivrer. Ils vont tous, pour ainsi dire, passer à côté, à part quelques-uns. Et il arrive, que le Seigneur permette ça. Regardez avec moi dans 2 Chroniques au chapitre 15. Ce sont des textes qu'on ne lit pas, je ne sais pas si on les lit vraiment, franchement. 2 Chroniques, chapitre 15. Dans 2 Chroniques au chapitre 15, on voit ces situations compliquées, ce qui se passe aujourd'hui. C'est compliqué aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui se passe. Et je peux vous dire que ce qui se passe, on ne le sait pas vraiment, parce qu'on nous embrouille avec des informations souvent qui sont superficielles. Quand vous regardez les informations au Moyen-Orient, je peux vous dire que c'est pas les mêmes qu'en France, croyez-moi. Et quand on ne cherche pas Dieu, quand on est pris par ces difficultés, je sais que ça peut arriver, qu'on peut traverser des épreuves, mais en fait, il y a un moment donné où il faut quand même comprendre ces choses. Regardez, 2 Chroniques, chapitre 15, verset 5. Dans ces temps-là, point de sécurité. Est-ce qu'on pourrait le dire aujourd'hui, ça ? Oui, on pourrait le dire. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Est-ce qu'on pourrait le dire ça aussi ? Ben oui, les gens sont troublés pour plein de choses. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville. Pourquoi ? Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Je ne sais pas si vous vous arrêtez sur ce genre de verset. Moi, oui. Pourquoi ? Mais parce que dès qu'il y a des mots comme angoisse, désert, etc., je trouve que ça vaut la peine de s'y arrêter et de comprendre. Oui, nous pouvons traverser des moments extrêmement difficiles et Dieu même peut les permettre, comme il a permis cette tempête, parce qu'il fallait qu'il leur apprenne quelque chose. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. On l'a chanté, que Dieu règne. On l'a chanté dans le deuxième cantique. Vous l'avez chanté, que Dieu règne au siècle des siècles, on l'a chanté. Mes frères et sœurs, les angoisses, la colère de Dieu, elle vient. C'est écrit, ça ne peut pas être plus clair. La colère vient. Si vous avez lu la Bible, vous savez que je n'exagère pas. La colère de Dieu vient. Elle va venir sur tous ceux qui s'y préparent, sur tous ceux qui ne veulent pas de Dieu, mais je peux vous dire que la grâce, elle est pour l'Église. Lorsque Jésus, c'est intéressant de le voir, j'espère que vous écoutez, pour que vous ressortiez de ce culte dans la victoire, car c'est ce que Dieu veut, que vous ressortiez dans la grâce. La colère, elle vient, on va en parler si le temps nous le permet, la colère vient. L'Église sera sauvée de la colère. L'Église ne connaîtra pas la colère. Je parle de Jésus, mais d'abord, quand Ésaïe prophétise le ministère de Jésus. Vous vous rappelez comment il prophétise le ministère de Jésus ? C'est dans Ésaïe 66 ou 61, Ésaïe 61. Je vous le lis, ne le cherchez pas. Ésaïe 61. Il est dit, voilà, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, écoutez bien le verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel, virgule, et un jour de vengeance de notre Dieu. Dans l'évangile de Luc, je crois au chapitre 4, lorsque le Seigneur revient sur cette prophétie, il entre dans la synagogue de Nazareth, il entre, voilà, on lui remet le livre du prophète Ésaïe, il lit la prophétie et il dit, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, etc. Il dit aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Il ne cite pas la dernière phrase, cette affaire de vengeance et de colère. Pourquoi ? Parce que l'Église n'est pas concernée par la colère. Mais la colère, je peux vous dire, qu'elle vient. La colère de Dieu vient. Aujourd'hui, que son nom soit béni, nous sommes dans la dispensation de la grâce. N'importe qui ce matin, écoutant la parole de Dieu, même si vous êtes en colère, pour reprendre le même mot, contre Dieu, ou si vous ne comprenez rien, vous pouvez obtenir la grâce. Alléluia. N'importe qui ce matin, je pense à tous ceux qui ne sont pas baptisés, bien sûr, à ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'accepter Jésus comme sauveur. Vous êtes dans la dispensation de la grâce. Aujourd'hui, 7 mai, vous êtes dans la dispensation de la grâce. Cette grâce, elle va s'achever. Quand ? Quand l'Église va être enlevée. Quand est-ce que l'Église va être enlevée ? Eh bien, quand le monde sera mûr, parce que c'est l'expression biblique, mûr pour la colère. Le monde se prépare à la colère. Et tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce qui se passe ici, à droite, à gauche, ce qui se passe en ce moment en Syrie, la façon dont les Iraniens arment les Syriens, on ne va pas parler du Hamas et tout ça, mais ça vaudrait quand même la peine de le comprendre. À quoi correspondent ces partis ? Si je vous dis Hamas, vous allez dire Hamas, le Hamas c'est quoi ? C'est un parti de Gaza. Mais regardez sur Wikipédia ce qu'est le Hamas, ce qu'ils veulent faire. Et croyez-moi que ce qui s'est passé cette semaine, parce que sur les informations nationales, vous avez entendu pas mal de trucs en même temps, peut-être que les artichauts étaient mûrs, c'est très bien. Mais je peux vous dire que sur les informations en Syrie, on vous enseigne que le Hamas et le Hezbollah est en train d'amener des milliers de missiles à la frontière du Golan. Pourquoi faire ? Laissez-moi vous dire, c'est pas pour les djihadistes. Et tout ça, ce sont des choses qui prouvent que Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, deux chapitres qui nous parlent sur la colère de Dieu qui vient sur la terre au travers de cette nation, certaines nations qui vont se coaliser, on peut en parler. C'est du spirituel, c'est pas de la politique, c'est du spirituel. Il y a des nations qui sont en train de se coaliser, les gens ils écoutent les informations, les journalistes n'y comprennent rien, ils vous noient le poisson et ils vous présentent les choses à leur façon. Pour comprendre, il faut lire la parole de Dieu. La colère de Dieu, elle vient. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs ? Et ne vous inquiétez pas de ce qui va arriver. Ce qui va arriver dans l'ancien empire romain, les coalitions qui vont se mettre en place au Moyen-Orient, tout ça, c'est prophétisé. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur permet des temps, des fois, où sa présence semble s'éloigner de nous. Et c'est pour ça que j'ai pris le texte de l'évangile de Marc, où il est dit, je ne sais pas si vous avez gardé la page, mais j'ai pris ce texte volontairement, cette histoire-là, parce qu'au verset 48, il est dit que Jésus les a vus. Parce que notre vision à nous, c'est une chose. Mais ce qui est important, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce qui est important, c'est le regard de Dieu sur vous. Vous avez vu au verset 48 ? Je vous avais demandé de garder la page. Vous l'avez gardée ? Verset 48, il vit. Jésus, il voit. Il voit où vous en êtes. Il était très loin d'eux. Mais c'est ça qui est important. Votre regard à vous, bien sûr que c'est important. Mes frères et sœurs, le regard de Dieu sur vous, est-ce que ce n'est pas plus important ? Est-ce que vous croyez que Dieu vous voit ? Il voit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Il voit le Seigneur si vous avez de la peine. Comme on le dit, on peut reprendre l'image au niveau spirituel. Il voit si vous êtes en train de ramer, si vous êtes en train de ne pas comprendre. Mais je comprends pas. Le Seigneur m'envoie là et paf, il permet une tempête. Est-ce que c'était vraiment la voix de Dieu que j'ai entendue d'aller, de traverser cette affaire? Mais mes frères et sœurs, vous croyez que Dieu se moque? Le Seigneur, il ne se moque pas. Mais le problème, c'est que quand on comprend pas la façon dont Dieu s'y prend, c'est pour ça qu'il y a des gens qui rétrogradent. Ça fait mal au cœur. Il y a des gens qui rétrogradent. Vous avez vu comment les Hébreux se sont mis en vrac contre Moïse. Alors que Moïse leur dit, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que Dieu va faire. Dieu va montrer sa puissance. Mais bien sûr que ça crée des remous. Il y a un combat. Pharaon, il va s'endurcir, etc. Ça va créer quoi ? Eh bien, ça va créer l'occasion à Dieu de manifester sa gloire. Alléluia. Et eux, ils ont subi cela. Et nous ne devrions pas, mes frères et sœurs, nous aussi tomber dans ce même comportement de subir alors que Dieu nous dit... Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Moi, cette semaine, j'ai prié. J'ai prié. Parce que je sais aujourd'hui, dans toutes les églises de France, ce sur quoi on va prêcher.
Et je peux vous dire que ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle est dans la parole. La pensée de Dieu, je vous l'ai dit, restez à l'abri. Restez à l'abri du jugement. La pensée de Dieu, moi je vous la donne. Rassurez-vous, c'est moi, dit Jésus. N'ayez pas peur. Vous entendez? Là, tout le monde aurait dû dire amen. On recommence. Mes frères et sœurs, vous entendez? Le Seigneur, il te dit, rassure-toi mon frère. Je suis là, n'aie pas peur. Vous entendez? Le Seigneur, il règne. Il savait ce qu'il était en train de faire lorsque Moïse est arrivé. C'est sûr que même les anciens d'Égypte n'ont pas bien compris. Alors qu'ils priaient pendant 400 ans, Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous. Quand Moïse arrive, ils sont tellement angoissés qu'ils n'entendent pas. Et je sais. Et ça, ce n'est pas un reproche. Ça ne servirait à rien d'ailleurs. Beaucoup de chrétiens n'écoutent pas. Vous entendez la prédication, peut-être, mais vous n'entendez pas la voix de Dieu qui vous dit, mais rassure-toi. Tu es dans la grâce. Tu es passé sous mon sang précieux. Je te garde. Vous entendez? Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ seront sauvés de la colère. Quand vous lisez Ézéchiel, c'est un livre vraiment pour les Juifs. Des fois, moi, je lis de ses commentaires. Bon, c'est sûr qu'on peut prendre certains textes, comme par exemple, allez, on va prendre le plus simple, Ézéchiel 37, quand Ésaïe amène Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, et qu'il lui dit, voilà, Ézéchiel, ces os, est-ce qu'ils peuvent revivre? Et il ne sait pas, lui, alors il dit, ben, je ne sais pas. Alors, vous savez ce que le Seigneur fait? Ça indique prophétiquement le retour d'Israël. Le retour des Juifs en Israël, c'est ce qui s'est passé. Israël, il y a encore 80 ans, n'était qu'un désert. Un désert, avec les seuls habitants, c'était des chacals et des renards et des hérissons. C'est écrit. Je ne cherche pas à faire de l'humour. Il n'y avait rien. Rien. J'ai même entendu un jour dans une information religieuse, un photographe et un poète de l'époque, dans les années 1920, qui avait été en Israël exprès pour faire des photos. À l'époque, on commençait à faire des photos et à faire des textes pour pouvoir dire ce qui restait des ruines, parce qu'il disait il n'y aura jamais rien en Israël. Mes frères et sœurs, Dieu a décidé de ramener tous les Juifs en Israël. C'est ce qui s'est passé à partir de... Enfin, le premier foyer, ça a été en 1917, etc. Enfin, je ne veux pas vous faire de l'histoire, mais c'est quand même important parce qu'il y a des dates clés qui indiquent comment Jérusalem est redevenue juive. Chapitre 37, le retour des Juifs en Israël. Chapitre 38, chapitre 39, la colère de Dieu. La fameuse guerre de Gog et Magog. Chapitre 40, la reconstruction du temple. Parce que laissez-moi vous dire que le temple, il va être reconstruit. C'est sûr. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous ne le croyez pas, c'est que vous avez mal lu votre Bible. Pourquoi? Parce qu'il faut, même que l'antéchrist, le faux juif, le faux messie, s'assoie dans le temple. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Le temple ne sera reconstruit qu'après cette colère, parce que certaines nations vont se coaliser avec un leader politique, avec un leader religieux. C'est simple à expliquer, mais en tous les cas, ça se met en place. Et ce qui se passe en Europe aujourd'hui va favoriser la montée de ce leader politique mondial qui va s'accorder avec un leader, bien sûr, du Moyen-Orient pour provoquer cette guerre. Nous ne connaîtrons pas cette guerre. Écoutez-moi bien. Toute la parole de Dieu le dit. On pourrait prendre encore deux textes. Alors, c'est dans Éphésiens. Éphésiens et 1 Thessaloniciens. Regardez avec moi. C'est important. Il y a des chrétiens qui ont peur. Ils ne peuvent pas écouter. Ils n'ont pas compris. L'Église ne connaîtra pas la colère. Vous pouvez dire merci Seigneur. Parce que vous savez, ça c'est encore un effet de la grâce de Dieu. C'est quand même merveilleux ça. Vous ne croyez pas? L'Église ne connaîtra pas la colère. Et c'est écrit, en fait, si vous ne le croyez pas, eh bien, c'est que vous n'êtes pas converti. Vous ne croyez pas à Dieu quand il vous parle. Vous êtes tellement angoissé que vous êtes empêché d'entendre. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous y êtes? C'est bien, il faut les lire, ces textes. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on a lu au verset 4, je l'ai fait volontairement, vous n'êtes pas dans les ténèbres, frère. Alors, la question, elle peut se poser quand même. Quand même, soyons sérieux. Est-ce qu'un chrétien peut être dans les ténèbres? Oui. Eh oui. Est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament? Eh oui, hélas. Parce que là, ça s'adresse à des chrétiens qui vont bien. Et franchement, en toute humilité, des fois, je sens bien que les prédications s'adressent pour les brebis qui boitent. Mais là, cette prédication, elle s'adresse pour les chrétiens qui vont bien. C'est sûr que ceux qui boitent peuvent être guéris. Mais cette prédication, elle est pour les chrétiens qui vont bien, qui sont conscients de ces choses. Vous n'êtes pas dans les ténèbres? Eh oui, mais enfin, bon. Il y a des chrétiens, la Bible dit que celui qui n'aime pas son frère... Il est dans les ténèbres, oui ou non? Et si vous avez de la haine contre quelqu'un, vous n'êtes pas dans la lumière. Alors c'est clair que ça vous a... C'est pour ça que les gens ne peuvent pas entendre. Il y a des chrétiens, on sait pourquoi il a rétrogradé, pourtant il a été guéri du cancer, il a fait ceci, il a été délivré de la drogue, il a rétrogradé, je ne comprends pas. Ben, ce n'est pas compliqué. Vous savez, si vous ne veillez pas, vous tomberez. Même si vous avez fait 50 expériences. Vous pouvez avoir fait. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'expérience extraordinaire, mais qui sont restés toujours fidèles. Pourquoi? Mais parce qu'ils obéissent. Ce n'est pas les expériences qui sont proportionnelles à l'enracinement spirituel. Ce qui est proportionnellement à l'enracinement spirituel, c'est à votre communion et à votre obéissance. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Eh bien, si vous faites juste des œuvres pour faire des œuvres, mais que vous n'obéissiez pas, Jésus dit dans l'Apocalypse à des chrétiens, tu ne sais pas que tu es aveugle. On pourrait prendre tous les textes, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais ça prouve que des chrétiens sont aveugles. La Bible dit que celui en qui ces choses ne sont pas, c'est-à-dire ces vertus qui se développent comme on est en train de le faire, de présenter à le faire, eh bien vous êtes aveugle. Donc un chrétien, oui, peut être aveugle. Mais un chrétien qui voit clair, qui obéit, etc., qui se ressaisit, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'épreuve. Est-ce qu'on peut perdre la paix? Est-ce qu'on peut la perdre la paix? Mais bien sûr, est-ce que le diable peut nous la voler? Bien sûr, voyons, on peut la perdre d'une façon ou d'une autre. Mais on la recherche, hein. Rechercher la paix. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Est-ce que vous le croyez? La colère, elle vient. Est-ce que vous le discernez un peu? Mes frères et sœurs, moi je vous conseille de regarder ce qui se passe au Moyen-Orient. Et je peux vous dire, en plus c'est des années de jubilé en plus qui se présentent, c'est quand même des situations importantes, mais même, qu'importe, même si Jésus tarde, etc., après tout il sait très bien quand est-ce qu'il doit revenir, mais la colère, elle vient. Le jour de la colère vient, dit Jésus dans l'Apocalypse. Qui pourra subsister? Vous connaissez cette question? Elle est posée dans... Où c'est qu'elle est posée cette question? Oui, je l'ai dit. On va la lire. Bon, il faut que vous m'aidiez. Apocalypse 6, c'est après l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'Église, l'Église est au ciel. L'antéchrist commence à se présenter à l'humanité. Il y a 3 années de pseudo-paix tout en étant catastrophique parce que la colère de Dieu vient. Je peux vous dire qu'après l'enlèvement, ça va vraiment chauffer. Là, aujourd'hui, on trouve que ça va mal. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, comparé à ce qui va se passer après l'enlèvement, ça va bien, croyez-moi. Et si vous n'êtes pas prêt, vous y repenserez. Si vous n'êtes pas prêt, lorsque Jésus reviendra chercher l'Église, vous direz, eh bien, Monsieur Gault, il n'exagérait pas. Il n'exagérait pas. Je n'ai pas l'intention d'exagérer. À partir du chapitre 6, vous avez l'antéchrist qui commence à se manifester. L'Église a été enlevée. La présence de l'Église empêche l'antéchrist de se manifester, même s'il est là. Ça commence à aller mal. Au chapitre 6 et au verset 4, il est dit, « Sortit un cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. » Vous voyez, c'est bien la preuve que l'Église est enlevée. Parce qu'aujourd'hui, croyez-moi, si l'Église est sur la terre, il ne peut y avoir que la paix sur la terre, parce que l'Église est comme le sel qui empêche la fermentation. Mais quand l'Église est enlevée, c'est sûr que le deuxième problème, voilà, la paix est enlevée de la terre. Et je peux vous dire qu'il ne fera pas bon se coucher le soir sans avoir fermé sa maison. Croyez-moi. Au verset 8, « Le je regardais, voici parut un cheval d'une couleur verdâtre, celui qui le montait se nommait la mort, le séjour des morts l'accompagnait, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Je peux vous assurer que ça va mal. Hein. Verset 16, « Il disait aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Et c'est Jésus qui parle, hein. C'est pas Jean. Verset 17, « Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister ?» Voilà, c'est des questions que Dieu pose, il les pose intelligemment, volontairement, il les pose pour qu'on s'arrête, c'est ce pourquoi on a des réunions, où on se retrouve sous le regard de Dieu. Qui peut subsister à la colère de Dieu ? Eh bien, ceux qui sont sous le sang précieux. C'est tout. Si vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus-Christ, vous connaîtrez la colère de Dieu. Et toutes les conséquences. Alors je sais que l'Apocalypse, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, à ce sujet, je vous recommande de méditer le livre qu'a écrit le pasteur Monsieur Segura sur le livre de Daniel, qui est une explication parfaite. Moi, je l'ai lu. C'est un livre extraordinaire. Alors, il ne faut pas être trop fatigué pour le lire, hein, mais ça ne fait rien. Il y a des chapitres un peu compliqués, mais ça vaut la peine que vous vous procuriez ce livre parce qu'il vous facilitera la lecture de l'Apocalypse, en fin de compte. Mais je vous assure, ça vaut la peine de méditer ces choses. En plus, c'est écrit que à la fin des temps, on comprendra. Ces choses étaient scellées du temps de Daniel. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce n'était pas à l'époque. Mais ces choses, aujourd'hui, sont compréhensibles. Pourquoi ? Eh bien, parce que les choses en sont là. Voyez, je ne veux pas faire de l'histoire théologique. Mais par exemple, Luther ou Calvin, ce sont eux qui ont amené la réforme dans le monde entier, la réforme protestante, etc. Eux, par exemple, quand ils vous parlent d'Israël, il vous parle d'Israël comme étant l'Église. Pourquoi ? Parce qu'Israël n'était inexistante. Donc pour eux, l'Israël de la Bible, c'était l'Église. Est-ce que vous me suivez ? Parce qu'Israël avait été disséminé, disparu. Ils ne pouvaient même pas comprendre qu'Israël redeviendrait une nation. Pour nous, c'est archi facile à comprendre. Parce qu'Israël est redevenu une nation, les nations sont en train de se coaliser pour lui faire une guerre qui se prépare. Mais je vous le dis, l'Église ne verra pas cette guerre parce que cette guerre correspond à la colère de Dieu. Le jour de la colère vient. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il vient vers vous ce matin, comme il a fait lorsque il a rejoint les apôtres dans la tempête. Ils avaient peur, ils avaient certainement oublié la multiplication des pains. Ils pensaient à leur vie, ils pensaient ils ont eu peur parce que, vous avez vu, ils ont dit qu'ils ont cru que c'était un fantôme. Alors quand vous lisez les histoires à l'époque, on disait, c'est des superstitions, mais comme quoi, voyez, même quand on est converti, on peut être encore esclave de certaines choses. Et ils ont cru que c'était un fantôme, vous l'avez lu avec moi. Parce qu'il y avait un bruit qui courait, que lorsqu'on allait mourir, on voyait un fantôme. Alors ils ont dit, ça y est, c'est notre heure, c'est fini. Vous voyez, alors que c'était Jésus qui s'approchait, c'est sûr que Jésus s'approchait d'une manière particulière. Mais vous croyez que le Seigneur, il a le pouvoir de s'approcher de vous comme il veut ? J'espère que ce matin, le Seigneur peut s'approcher de votre cœur et vous dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, je tiens tout, dit le Seigneur. C'est lui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Vous croyez que, vous avez vu dans l'Apocalypse, à la fin, avant le millénium, qu'est-ce qu'un ange fait ? Un ange reçoit un ordre de jeter Satan dans les temps de feu pour 1000 ans. Un ange, il y a des anges qui doivent être, excusez-moi, hein, il n'y a que le mot qui me vient à la bouche, costaud. Un ange. Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu le faire depuis longtemps ? Pourquoi le Seigneur laisse certaines choses ? Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il ne se trompe pas. Il règne et il voudrait régner dans vos cœurs, dans mon cœur. Il voudrait que nous saisissions cette parole ce matin pour dire, mais c'est vrai, il contrôle tout. Il contrôle le retour des Juifs en Israël. Il va contrôler cette guerre. Alors méditez-le quand même 7 ou 8 fois, Ézéchiel 38 et 39, pour le comprendre. Mais mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. On va juste peut-être lire le verset qui nous intéresse, parce que ça, il nous parle de la colère de Dieu, qui, la colère, la grande colère. C'est pas une irritation, c'est une colère extraordinaire. Mais moi, je sais que c'est peut-être pas facile et que c'est à nous les pasteurs de bien vous les expliquer. Mais croyez-moi, nous sommes au prélude de cette affaire. Les Juifs sont revenus. Cette guerre, elle va venir. Et des gens comme des leaders politiques qui se trouvent en Russie, en Turquie. Vous avez vu en Turquie comment ça se passe? Vous avez vu ce qui se passe en Turquie? Je voudrais pas que vous pensiez que je fais de la politique. C'est la parole, le Togarma, là, c'est la Turquie. Ils sont en train d'armer la Syrie. Et c'est pas avec 50 missiles, c'est des centaines de milliers de missiles. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça dans le sud du Liban? Pourquoi? Dites-moi-le. Ils font ça pour contrer le djihad? Moi, je peux vous dire que non. Alors, c'est un peu compliqué. J'essaierai de vous l'expliquer bien, de vous expliquer ce que sont les sunnites, les chiites, les religions, vous voyez, islamistes, qui sont nationales ou plutôt locales. C'est bien de comprendre ces choses. Parce qu'on vous parle des sunnites, on vous parle des chiites, on ne comprend pas trop. Mais je voudrais vous l'expliquer. Je sais que ça sera peut-être un peu rébarbatif pour certains, mais ça sera certainement très utile pour d'autres. En tous les cas, pour que vous puissiez prier comme Dieu le demande. Regardez, verset 18 du chapitre 38. C'est une parole, n'oublions pas, c'est Dieu qui parle. C'est le temps de la colère. Les nations se rebellent. Vous avez vu comment les gens parlent contre Dieu? C'est hier. Hier, ça m'arrive de regarder les actualités, vous savez, sur Google Actualités. Comme ça, ça va vite. En 3 minutes, vous savez ce qui vous intéresse. Je vous le dis parce que c'était quand même formidable. C'est des scientifiques, des gens, vous voyez, qui ont bac plus 13, plus 15, et qui sont intelligents. Je vous lis l'article. Vous le trouverez certainement sur Google Actualités. Écoutez bien, ne pensez pas que je suis fatigué, d'accord? Vous savez ce qu'ils ont dit, les scientifiques? Ils ont dit que parler grossièrement faisait du bien au psychisme et au physique. Et qu'ils ont fait des tests, bien sûr, sur des centaines de sportifs, et ils se sont rendus compte que lorsqu'ils étaient grossiers, disaient des gros mots, des jurons, des grossièretés, ils étaient meilleurs que ceux qui étaient polis. Voilà, des scientifiques. Mais eux, ils n'ont pas dû en dire. Hein. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a un problème. Mais je ne sais pas si vous prenez. Et les gens vont le croire. Je sais. Alors, là, franchement, bon, comme on fait une petite parenthèse, on peut presque en rigoler. Est-ce que vous comprenez? Tellement c'est ridicule. Ben c'est vrai que Jésus a dit qu'il viendra des temps où on appellera le mal bien. Mais mes frères et sœurs, c'est pathétique. Et tout ça, ça favorise la guerre, ça favorise la colère. Regardez, Ézéchiel 38, verset 18. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu. Pardon? 18 et 19. Qui c'est qui m'a contredit? Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte. Alors la preuve, au verset 39 et au chapitre et au verset 9. Alors les habitants des villes d'Israël sortiront, ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les piques et les lances, et ils en feront du feu pendant 7 ans. Ce qui prouve bien que c'est la fin de l'histoire de l'Église et que c'est le début de la tribulation et de la grande tribulation, cette fameuse semaine dont parle le prophète Daniel dans son livre où la colère de Dieu va venir sur la terre. Mais à ne pas confondre avec la dernière guerre à la fin du millénium où le diable est relâché et où en fin de compte les gens vont se mettre contre Dieu. Ça fait pitié, pendant 1000 ans ils auront vu la paix sur la terre. Et quand le diable est relâché, il y a des gens qui prennent position contre Dieu. C'est la deuxième guerre d'Armageddon, où là c'est le Seigneur Jésus lui-même qui revient et qui installe les 1000 ans de paix sur la terre. Mais là, mes frères et sœurs, le Seigneur parle d'une colère. d'une colère qui vient. Et je vous le répète parce que je veux que vous soyez rassurés. L'Église ne peut pas connaître la colère de Dieu, que son nom soit béni. L'Église, elle doit connaître la grâce, l'honneur, la paix. Lisez avec moi dans Romains au chapitre 2. C'est très très bien expliqué. D'ailleurs, avec une concordance, vous pouvez prendre les textes sur la grâce, les textes sur la colère, et vous verrez très facilement à qui est adressée la colère et à qui est adressée la grâce. Nous sommes ses enfants. Vous ne protégeriez pas vos enfants ? Vous savez que la grêle va venir, vous savez que la tempête va venir. Vous ne protégeriez pas vos enfants ? Et bien sûr que si, ceux qui le veulent en tous les cas. Romains chapitre 2, verset 4. Mes frères et sœurs, lisez avec moi et remerciez le Seigneur pour sa sainte parole, pour sa bonne parole, et que les angoisses et la peur du lendemain ne vous empêchent pas d'écouter ces choses. Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité ? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, là je m'adresse à ceux qui ne sont pas convertis, à ceux qui sont légers avec Dieu, à ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur, la bonté de Dieu, elle ne vous pousse pas à la repentance. La bonté de Dieu vous pousserait-elle à vous frotter les mains et à dire ça va se terminer bien parce que Dieu est bon? La bonté de Dieu, je suis désolé, la bonté de Dieu, elle vous pousse à la repentance. La bonté de Dieu, elle vous pousse à l'obéissance. La bonté de Dieu, elle vous pousse à travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Oui, la bonté de Dieu, elle ne nous fait pas frotter les mains en disant « je fais ce qu'il me plaît ». La bonté de Dieu, elle nous pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent. Un cœur impénitent, c'est un cœur qui ne veut pas changer. L'impénitent, c'est ça. C'est quelqu'un qui refuse de changer. Et il y en a parmi nous des impénitents. Tu t'amasses. Alors regardez bien. L'image est terrible, hein. C'est comme la colère de l'agneau. Vous voyez, la colère de l'agneau, c'est une expression de Jésus. C'est impossible, en vérité, humainement, parce qu'un agneau ne se met pas en colère. Et là, c'est pareil, un trésor de colère. Vous vous rendez compte ? Déjà, ils s'accumulent, ils ne se rendent pas compte. Hein. Un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Est-ce qu'il y en a parmi nous ? Est-ce que vous y avez... Il peut y en avoir, et ce n'est pas du tout de l'humour noir que je fais. Est-ce qu'il y a des gens rebelles parmi nous ? Des gens tout le temps en train de critiquer, de se rebeller contre l'Église, contre Dieu, contre la parole, contre tout. C'est une mentalité, ça. Elle est instaurée par le monde. Le monde a institutionnalisé cette affaire d'un esprit rebelle par des politiciens, justement. Et nous devons y veiller. L'irritation et la colère, vous voyez ? Verset 9, tribulation et angoisse. Je ne parle pas des angoisses que l'on peut avoir lorsqu'on a une épreuve. Ce n'est pas pareil. Je parle des angoisses qui sont le résultat de l'impénitence, de l'endurcissement et de la rébellion. Je ne parle pas des angoisses qu'on peut avoir parce que quelque chose nous a blessés et qui dure un moment et qu'on dépose au pied du Seigneur. Sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Mes frères et sœurs, c'est nous qui choisissons. Comment nous écoutons ? Est-ce que les angoisses, justement, nous empêchent d'écouter ? Est-ce que les épreuves que Dieu permet à cause de tout ce qui se passe, et dont nous sommes parfois entraînés, comme cette affaire de barque, que Dieu permet, il a permis. Le Seigneur, il aurait pu les faire traverser sur un lac tranquille. Non, il fallait qu'ils comprennent. Il fallait qu'ils comprennent la multiplication des pains. Il faut que nous comprenions les choses, mes frères et sœurs. Il faut que nous comprenions ce qui se passe. Ils n'ont pas compris la multiplication des pains. Et vous pouvez dire, eh bien, pour des apôtres, pour des futurs pasteurs, mais ça la fout mal. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe en Europe ? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe au Moyen-Orient ? Tout ça est bien expliqué. En plus, je permets qu'on ait des livres comme celui que je viens de vous citer. Ce sont des livres qui facilitent la compréhension des choses. Que Dieu soit béni. C'est écrit que dans la fin des temps, la connaissance augmentera. Quel privilège, mes frères et sœurs. Rassurez-vous, c'est moi, dit le Seigneur. N'ayez pas peur. Je vous protège, je vous garde. Même si la tempête souffle, même si les temps difficiles arrivent et si les temps seront de plus en plus difficiles. Vous entendez, mes frères et sœurs ? Les temps seront de plus en plus difficiles. Mais nous, on peut rester à côté de Jésus. Parce qu'à côté de Jésus, ça m'étonnerait que ça bouge beaucoup. À côté de Jésus, vous êtes en paix. honneur, gloire et paix, que nous puissions, comme dit le psalmiste, regarder la tribulation des méchants. Il le dit, mais toi, tu regarderas et tu verras. Oui, nous allons voir de plus en plus de choses terribles. Alors, loin de nous la pensée de nous endurcir. Il ne faut pas non plus devenir insensible. Mais mes frères et sœurs, prions pour les frères qui sont dans la bande de Gaza, parce que je peux vous dire que d'être chrétien à Gaza, ça ne doit pas être facile. D'ailleurs, regardez sur les sites internet qui en parlent. Être chrétien en Cisjordanie, ça ne doit pas être facile. Vous vous plaignez à Toulouse dans les bouchons, mais je peux vous dire que vous iriez passer 15 jours en Cisjordanie, vous languiriez les bouchons. Et vous diriez merci Seigneur pour les bouchons. Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr. Je le dis de cette façon, mes frères et sœurs, que nous puissions regarder la rétribution des méchants. Ce que je vous dis, ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais mes frères et sœurs, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Et je voudrais terminer à une pensée qui s'est imposée à mon cœur ce matin quand je priais pour ce moment. Je pensais à ces situations compliquées, justement, qu'on ne comprend pas. Ils ne comprenaient pas la multiplication des pains. Ils ne comprenaient pas les paroles de Moïse. Je ne sais pas si vous avez compris cette prédication. J'en sais rien. Regardez dans Genèse, au chapitre 16. Il y a une situation, c'est compliqué. Abraham va faire une erreur. Il va vouloir un enfant avec Agar parce que Sarah ne peut pas enfanter. Elle est âgée. Elle a été, comment on appelle ça, ménopausée. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il donne à Sarah, donne sa servante à Abraham. Et Agar, bien sûr, elle devient enceinte. Genèse chapitre 16, verset 4. Regardez ces choses, on les comprend, on ne les comprend pas, mais il faut les lire, mes frères et sœurs, pour comprendre la conclusion de ce que je vais vous dire. Genèse chapitre 16, verset 4, il alla vers Agar. Agar, ça veut dire fuite. Et c'est vrai qu'il y a des chrétiens, ils sont tout le temps en train de fuir la volonté de Dieu. Il alla vers Agar. Elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarah dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris, que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Et en colère, mais je la comprends. Voyez, Abraham répondit à Sarah, et voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le voudras bon. Alors Sarah la maltraita, et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, où ? Dans le désert. Dans le désert, on en parle souvent. Hein, bon, c'est comme ça. Près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu ? Où vas-tu ? C'est des questions que Dieu pourrait nous poser ce matin. D'où viens-tu ? Bien sûr, ne me dites pas de Castanet, je vous parle spirituellement. Spirituellement, d'où venez-vous ? Et où allez-vous ? Elle répondit, je fuis. Peut-être que c'est la réponse que vous pourriez donner, peut-être quelqu'un. J'espère que non. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Bon. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affaire d'humilité ? Vous savez, l'humilité, c'est une loi. Dieu fait grâce aux humbles. C'est comme ça. Ne vous formalisez pas, c'est un principe éternel. Dieu fait grâce aux humbles. Je me suis trompé, pardon. J'ai eu tort, je te demande pardon. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enceinteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Ismaël, ça veut dire Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous. Alors il y en a qui ont utilisé ce verset pour parler de cette façon des musulmans. Mais en fait, il y a des prophéties aussi, il y a des promesses pour eux. Il faut... Vous croyez que Dieu peut visiter notre pays et sauver des milliers de musulmans ? Est-ce que vous croyez que Dieu peut même avoir programmé des choses chez les musulmans ? Des maladies ? Des trucs pas possibles ? Et que Dieu est capable de se révéler et de les sauver ? Il les aime, les musulmans. Quand on prie contre les musulmans, ce n'est pas intelligent. Il faut prier pour les musulmans. Moi, je ne supporterai pas dans l'Église, je vous le dis, qu'on prie contre les musulmans. Bien sûr que c'est la religion de l'islam n'est pas une religion de paix, mais mes frères et sœurs, on aime les musulmans. On prie pour les musulmans, parce que Dieu peut les visiter. Alléluia, il faut le croire, mes frères et sœurs. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, la main de tous sera contre lui, il habitera en face de tous ses frères. Regardez bien la suite, frères et sœurs. Elle appela Atta El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, « Ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de l'Akai Roy. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils Abraham, et Abraham lui donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta, etc., etc. Atta El Roy, alors bien sûr c'est de l'hébreu, peut-être que vous ne comprenez pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu es le Dieu qui me voit. Il vit qu'ils avaient de la difficulté à ramer. Dieu voit quand on est dans une situation qu'on ne comprend pas, parce qu'on fuit, parce qu'on est là, et qu'est-ce que je fais là, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi ça coince, et pourquoi il y a des angoisses, et pourquoi je ne comprends rien. Et mardi, j'aurais peut-être déjà oublié toute cette prédication, alors que Dieu voulait que je comprenne le sens de cette prédication. Il y a un Dieu qui te voit. Il te voit et il t'entend. On le chante des fois, Dieu te voit et il t'entend. Le puits de l'Acaroy, le puits de celui qui vit et qui voit. Le Seigneur, il est vivant, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas dépassé. Celui qui est assis sur son trône, il rit. Ça veut dire, ça veut pas dire qu'il se rit des gens. Ça veut dire qu'il maîtrise tout. Il contrôle tout. Et s'il y a une chose qu'il contrôle avant de contrôler le peuple juif, parce qu'après que l'église est enlevée, eh bien le projecteur, il se tourne sur Israël. Mais aujourd'hui, le projecteur de Dieu, le grand projecteur, il est sur l'église. Mais quand l'église va être enlevée, je peux vous dire que ça va tout s'orienter sur Israël. Mais ça, par la grâce de Dieu, on ne le verra pas. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la colère. Et nous ne sommes pas destinés à la colère. Nous sommes destinés à la gloire. Il me voit, le Seigneur. Vous entendez ? Vous avez compris ma prédication ? Peut-être que je l'ai mal expliqué, c'est fort possible. Mais est-ce que vous avez compris ? Est-ce que vous n'avez peut-être pas compris le miracle que vous avez vécu, la multiplication des pains ? Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi Dieu vous demande de traverser une situation alors qu'il ne vient pas avec vous, enfin, physiquement. Et vous dites, mais il voit, il a vu, il les a vus. Il les a vus et il les a rejoints. Mes frères et sœurs, faites-lui confiance. Restez à l'abri de la colère. Vous le croyez, mes frères et sœurs ? Le Seigneur, il garde ses enfants. Il garde ses enfants, il sait quand la grêle va tomber. En plus, là c'est une, je pense qu'il y a une guerre chimique et atomique, vu ce qui est décrit. Mais en même temps, le Seigneur, il appuie l'armée israélienne avec la grêle et tout ce que vous voulez. Frères et sœurs, le Seigneur, il sait ce qu'il doit faire pour protéger ses enfants. Il vous aime, il t'aime, je vous tutoie volontairement. Le Seigneur t'aime. Est-ce que tu lui as donné ta vie ? Répondez dans votre cœur. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur le bois de la croix pour le pardon de vos péchés ? Est-ce que vous avez accepté son sang comme le seul moyen d'être justifié et sanctifié ? Est-ce que vous croyez vraiment tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu ? Est-ce que vous avez pris le baptême selon la parole de Dieu pour dire « Oui, j'accepte Jésus-Christ » ? Si vous faites partie de ces gens qui travaillent à votre salut, vous êtes protégés par Dieu. La paix de Dieu est avec vous. Et si vous êtes empêché de comprendre parce que ça va aller de plus en plus mal, ça quand même, il n'y a pas besoin d'être prophète pour l'expliquer. Ça va chauffer, mes frères et sœurs. Mais restez à l'abri. Restez à l'abri, rassurez-vous, il y a un Dieu qui voit et qui entend. Que son nom soit béni. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Il est entré dans la barque. Et qu'est-ce qui s'est passé ? De suite, ils se sont retrouvés. Il y a plusieurs textes. Il y a un texte qui dit que de suite, la barque, mais sur le vent, s'est stoppée. Et il y a un autre texte qui dit, en plus du vent qui s'est stoppé, ils se sont retrouvés à l'endroit où ils allaient. Bientôt, on va se retrouver à l'endroit où il faut qu'on soit. Je pense qu'il va y avoir un sacré décalage entre les gens qui sont au ciel et à malheur. C'est pour ça qu'il est dit, heureux ceux qui sont dans les cieux et malheur à la terre. Parce que les chrétiens, ils ne seront pas sur la terre. Gloire à Dieu. Rassurez-vous. C'est moi, vous dit le Seigneur. Je te garde, je te vois, je t'entends, je te protège. Reste avec moi. Humilie-toi. Devant les gens avec qui tu t'es énervé, tu t'es fâché avec ton patron. Va lui demander pardon. Dieu bénit les humbles. Notre Dieu... Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas entendu, où nous étions préoccupés par l'actualité, où nous étions préoccupés par le vent, par ces prémices de la tempête. Ce que nous croyons, c'est que tu nous vois à chacun, et que tu nous entends, et que tu nous protèges. Merci Seigneur. Merci de nous avoir promis que l'honneur, la gloire, l'immortalité, la paix seraient pour tous ceux qui se seraient réfugiés à l'abri de ton sang. Merci encore pour le calvaire. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.